Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Au téléphone avec nous et comme toutes les semaines, Françoise Verna, rédactrice en chef de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie. Et comme toutes les semaines, on va égrener la une de cette édition à paraître ce vendredi. Bonjour chère Françoise.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et on commence donc cette une de La Marseillaise avec le dossier de la semaine qui porte sur les phénomènes méditerranéens.
Oui, tout à fait. Ce sont ces phénomènes méditerranéens que dans notre région, notre département et dans le Gard, on appelle les pluies cévenoles. Mmh. Ces intempéries très violentes et soudaines que l'on ne connaît trop bien dans notre département de l'Hérault.
Et oui.
Donc dans ce dossier, on pose la question, pourquoi elles s'intensifient, comment s'en protéger? Donc on fait le point là-dessus. Évidemment, c'est en lien avec le dérèglement et le réchauffement climatique.
La Marseillaise revient aussi sur le fait que les pêcheurs sont pris à la gorge à cause de la fin des aides de l'énergie. C'est toute une profession de petits métiers qui risque de disparaître.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les pêcheurs de la région et puis les pêcheurs français bénéficiaient d'une aide pour acheter le gazole, hein, mais cette aide de l'État donc va prendre fin le 15 octobre.
Oui.
On a des professionnels qui sont au bord du gouffre. Hein, ce sont des petits métiers surtout qui en souffrent.
Mmh.
Donc on fait le point notamment avec Bernard Pérez, qui est le président du comité des pêches d'Occitanie, qui nous explique les difficultés et le manque de perspective. Évidemment, il demande que les aides soient maintenues.
Mmh.
Au-delà de ça, on fait le lien aussi avec la transition écologique nécessaire aussi.
Oui.
Pour ces métiers et aider ces professions à passer de cap et à ne pas disparaître.
Allez, direction Béziers avec le maire d'extrême droite, Robert Ménard, qui veut donner la gestion des halles aux privés.
Oui, alors c'est un dossier qui a soulevé l'opposition, notamment Nicolas Cossange pour les communistes et les écologistes.
Oui.
Alors la tendance de Robert Ménard, ce maire d'extrême droite, a une gestion ultra-libérale et il privatise à tour de bras. Et c'est ce qu'il veut faire aussi pour les halles. Alors c'est des halles qui sont très belles, mais qui doivent être rénovées. Là, la rénovation, ça pose pas de problème, mais c'est la gestion au privé. Donc il y a vraiment une interrogation sur d'abord le devenir de certains étaliers, hein,
oui.
Dans cette une fois que c'est rénové et confié au privé, les prix de la location peuvent augmenter.
Et, oui.
Et donc on revient là-dessus. C'est un épisode supplémentaire, une illustration de plus de la gestion de Robert Ménard qui s'ingénie à gentrifier, comme on dit,
ouais.
Le cœur de Béziers, la vitrine.
Et pour finir, direction l'île singulière qui fête ses 350 ans et la Marseillaise est allée à visiter la grande exposition organisée par le musée Paul Valéry.
Exactement, cette grande exposition, elle s'appelle Mémoire de Sète. Elle vient d'ouvrir et en fait, on peut aller la voir jusqu'au début de l'année 2024.
Mmh.
Elle est ouverte jusqu'au 7 janvier 2024. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, le musée a ouvert ses réserves. La ville de Sète a ouvert aussi ses archives.
Ouais.
On a à la fois des archives extrêmement intéressantes sur la création de la ville de Sète, hein, qui date officiellement de 1666 et de 1673 avec un édit royal.
Oui.
Donc ça, c'est exposé. On a des plans anciens et on a énormément de tableaux aussi qui sont exposés. Donc se plonger dans les mémoires et non pas la mémoire mmh. de Sète, parce qu'elle est plurielle, diverse, pour cette belle cité, ce qu'on appelle l'île singulière, qui ouvre ses bras à tous les visiteurs.
Allez, à la une de la Marseillaise, vous avez les titres, chers auditeurs, et on en parle tout de suite avec Françoise Verna.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Et on commence donc, Françoise, avec le dossier de la Marseillaise qui, cette semaine, porte sur les phénomènes méditerranéens. Comment s'en protéger? Pourquoi il s'intensifie? Vous faites le point.
Oui, on fait le point là-dessus parce que bon, on le vit tous, hein, on est encore en ce début du mois d'octobre avec des températures très élevées.
En été.
C'est-à-dire que bon, on a eu un mois de septembre le plus chaud, oui. Jamais vu depuis très longtemps.
Oui. Et dans toute la France.
Octobre, hein. C'est pareil. Et les phénomènes méditerranéens. Il y en a déjà eu quelques épisodes mi-septembre. Hein, il y a eu des communes, hein, on pense à la commune de Lunas au nord de l'Hérault, avec la crue de l'Orbe qui a entraîné notamment des inondations dans un hameau, mais aussi qui a emporté plusieurs voitures. Mmh. C'est pareil du côté du Gard, hein, il y a eu entre 150 et 170 mm de pluie qui se sont abattus dans un temps record sur les Cévennes gardoises. Alors pourquoi tout ça? Donc on interroge notamment Alix Roumaniac. Alors lui, c'est le président de la société Predict Service, qui propose ses services aux collectivités pour justement étudier et prévenir ces phénomènes. Mmh. Il nous dit il nous explique que pendant tout l'été, il y a eu un dôme de chaleur sur la Méditerranée qui a provoqué une canicule marine. Ouais. Or, les températures élevées de la mer, c'est vraiment le carburant des épisodes cévenols ou méditerranéens. Mmh. Donc, on profite encore du bord de mer, des baignades, mais le gros revers de la médaille, c'est qu'il risque de nous tomber des pluies diluviennes dessus à cause de ce réchauffement climatique. Mmh. Alors, évidemment, les collectivités, elles s'arment depuis très longtemps parce qu'elles ont une culture du risque qui est cultivée depuis longtemps. Ouais. On a sur le bassin de Thau. On est allé rencontrer le syndicat mixte du bassin de Thau qui organise d'ailleurs, puisque c'est aujourd'hui vendredi, enfin c'est le 6 octobre et le 7 octobre, des journées qui sont centrées sur la culture du risque, ouais. Qui nous permet de revenir sur leurs actions. On a aussi dans le Gard du côté d'Alès, qui a la mémoire, ça fait maintenant plus de 20 ans, il y avait une très violente inondation dans la capitale cévenole, avec quand même des victimes. Hein, mm-hmm. Il y avait 22 habitants à l'époque, en 2002, qui avaient péri. Cette culture du risque aussi, elle est très prégnante à Alès. Et puis aussi la ville de Montpellier, qui est régulièrement inondée à cause de ces phénomènes méditerranéens, qui fait de la prévention, notamment parce qu'elle gagne chaque année des habitants. Mmh. Et donc l'image de la Méditerranée, l'image carte postale, elle est souvent un peu dangereuse parce que on n'a pas conscience des risques. Donc on explique tout ça, on revient aux photos sur les épisodes marquants, oui. Avec des photos assez impressionnantes sur les 30 dernières années. Et puis on pose la question de mesures structurelles, puisqu'on sait que le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté qu'il appelle la planification écologique, ouais. Sauf que c'est à la sauce libérale et que on n'a pas vraiment de mesures vigoureuses, la France étant toujours très en retard pour atteindre ses objectifs de baisser de 55% ses émissions de gaz à effet de serre, hein, donc qui sont responsables du réchauffement climatique et du dérèglement.
Comme le dit le gouvernement, ils ont déjà fait la moitié. Hein.
55% d'ici 2030, ça fait 7 ans.
Ouais.
Et on a, pour donner une petite mesure, l'Élysée s'est réjoui d'une baisse sur le premier semestre 2023 de 4,3%. Ouais. Donc on est vraiment, vraiment très en retard. Quand on donne une enveloppe, on annonce une enveloppe, comme l'a fait Emmanuel Macron, de 700 millions d'euros pour bâtir 13 RER métropolitains, tout en reconnaissant que ce sont des projets qui vont coûter 10 milliards d'euros, on se demande qui va les financer, est-ce qu'ils vont voir le jour. Donc c'est un dossier à la fois sur la prévention des risques, pourquoi ces phénomènes et quelles réponses évidemment, pour l'instant, la réponse de l'État n'est pas au niveau. Mmh.
Allez, on reste dans le domaine de l'eau avec les pêcheurs qui sont pris à la gorge à cause de la fin des aides de l'énergie, notamment du carburant.
Oui, alors là, on est aussi quelque part toujours sur le même sujet de la, on va dire, de la transition écologique, hein, oui. Parce que les pêcheurs, pour pouvoir exercer leur métier, bah, ils ont des bâtiments, enfin, des bateaux, et pour l'instant, eh bien, ils mettent du gazole, hein, dans leurs bateaux. Donc, ils sont vraiment pris à la gorge. C'est une profession qui a de plus en plus de mal à vraiment vivre de, oui, son métier, et c'est assez grave, hein. Donc Bernard Pérez, qui est le président du comité des pêches d'Occitanie, nous a expliqué que vraiment ils sont au bord du gouffre. Alors pourquoi? Parce que d'abord, ce petit coup de pouce du gouvernement qui leur permettait d'économiser 20 centimes sur le litre de gazole, mmh, hors taxe, hein, va être supprimé à partir du 15 octobre. Alors, bien évidemment, on ne peut pas financer à vitam aeternam du gazole. Hein, c'est, mmh, pas... Mais quelle solution on propose à ces pêcheurs? Pour l'instant, le plan de transition énergétique qui comprend dans ses ambitions, on peut dire, le verdissement du carburant maritime, mmh, ça reste pour les pêcheurs quelque chose qui n'est pas du tout concret. Oui. Eux, vraiment, ils ont besoin de pouvoir continuer à exercer. Et c'est, avec la disparition de cette aide du gouvernement, Bernard Pérez nous explique que la part des charges des pêcheurs, essentiellement ceux qui exercent la petite pêche, hein, mmh, va passer de 15 à 40%.
Ah oui.
Donc, il y a eu une flambée. Ils sont aussi, entre guillemets, victimes de la crise énergétique, hein, mmh, et d'une gestion très capitaliste du carburant. Donc ça, c'est le fond du truc. Hein. Et donc, ils estiment que, notamment, cette profession des pêcheurs, est quand même pour la ville de Sète, notamment, mmh, une activité extrêmement importante, hein, que le gouvernement ne s'est pas assez battu. Donc, on explique tout ça dans cet article, qui montre que bon, on touche du doigt vraiment la nécessité de soutenir une profession et de l'aider à passer le cap d'une transition énergétique qui est complètement nécessaire. Pour l'instant, ils n'ont pas les moyens de le faire. Hein. Mmh. On est quand même sur une question qui concerne non seulement cette profession, mais aussi tous les citoyens.
Oui, tout le monde.
Puisque, faut rappeler que nous sommes, la France, le troisième producteur de poissons, mmh, c'est-à-dire avec l'aquaculture et la pêche, mmh, hein, de l'Union européenne. Hein. Avant nous, il y a l'Espagne et le Danemark. Hein. Donc c'est quand même pas rien d'avoir une profession qui tire la sonnette d'alarme. Il faut vraiment s'y pencher et on donne les éléments de compréhension de ce problème, de cet enjeu, mmh, dans la Marseillaise.
Oui, c'est tout le problème de notre temps. Comment allier fin du monde et fin du mois.
Et fin de mois. et activité économique
et
aussi.
Oui,
hein.
Et oui, oui, oui. Allez, si on change complètement de sujet, direction Béziers avec son maire, Robert Ménard, qui veut donner la gestion des halles au privé.
Oui, alors, en fait, Robert Ménard, donc le maire d'extrême droite de Béziers, alors sous couvert d'une réflexion des halles qui est complètement nécessaire, hein, ils ont en fait les transformer en halles gourmandes, comme, mmh, on dit aujourd'hui, hein, qui elles sont plantées, il faut rappeler, elles sont plantées, ces halles de Béziers, c'est un très beau bâtiment, hein, c'est de type Baltar, hein, mmh, c'est comme les halles à Paris, hein, qui ont été détruites, hein, à l'époque. Là, elles datent de 1891, mmh, donc c'est un patrimoine aussi, mais elles n'ont absolument pas été rénovées depuis 1987, hein, donc ça fait 36 ans, donc c'est quand même... Alors, Pourquoi on fait cet article et on se penche là-dessus? Parce que, en fait, c'est encore un exemple, une illustration de la gestion ultralibérale de Robert Ménard, qui, lui, veut gentrifier le centre-ville de Béziers, oui, sans s'occuper, évidemment, du reste de la ville. Et donc, l'idée, c'est de faire de ces halles qui sont où il y a des étaliers, bon, bah, qui sont qui vont vendre des produits, on va dire, de première nécessité, quoi, oui, de la nourriture, tout ça, en quelque chose de beaucoup plus bobo, on va, oui, dire, hein, voilà. Donc deux élus de l'opposition sont montés au créneau pour dénoncer cette volonté de confier la gestion des halles qui seraient donc rénovées à une société privée. Mm-hmm. C'est Nicolas Cossange, hein, qui est du Parti communiste, et Thierry Antoine, qui est d'Europe Écologie Les Verts. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'information officielle, mais c'est quand même relativement avancé dans la tête du maire. Hein. Ouais. C'est-à-dire que il y a déjà un coût prévisionnel, c'est 8 millions d'euros pour la rénovation. Bon, c'est pas quelque chose d'exorbitant. En revanche, c'est de l'argent public pour rénover et ensuite confier au privé la gestion d'un lieu.
Oui,
alors, comme nous explique Nicolas Cossange, c'est un peu le syndrome des autoroutes.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
On investit de l'argent public, c'est nécessaire, mais pour que le privé en tire tous les bénéfices. Mmh. Donc voilà, donc on met un peu sur la table ce sujet, hein, qui n'est pas neutre, hein. Alors, il faut savoir aussi, on explique qu'il va y avoir 15 mois de travaux à partir du début de l'année 2024.
Oui.
Quid déjà de où vont aller les étaliers actuels,
oui,
et puis surtout, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir?
Et oui, c'est ça.
Donc il y a un flou un peu total là-dessus, et on donne aussi tous les termes du débat et cette nouvelle illustration de la gestion Ménard de Béziers.
Mmh, et une affaire à suivre, évidemment, dans les prochaines éditions de la Marseillaise, j'imagine. Allez, direction cette belle île, la ville de Sète, qui fête ses 350 ans. Et la Marseillaise est allée à la grande exposition organisée par le musée Paul Valéry.
Oui, alors c'est le magnifique musée Paul Valéry, là, qui est au-dessus du cimetière marin de Sète, hein, qu'on appelle l'île singulière, une ville extraordinaire, on en parle souvent. Et là, c'est une ville qui célèbre quand même ses 350 ans,
et, oui,
et qui a su se renouveler, en tout cas rester une ville au plein sens du terme,
oui,
très vivante et très, très accueillante et très culturelle. Donc cette exposition, elle permet de se plonger dans ces 3 siècles et demi d'histoire, avec non seulement des œuvres, hein, puisque c'est l'objet même du musée Paul Valéry, mais aussi des archives. Hein,
oui.
Donc on a un total de 80 œuvres ou documents d'archives qui sont issus pour la plupart du fonds du musée,
mmh,
mais elles ont aussi été enrichies de prêts qui ont été consentis par Voies Navigables de France.
Hein, oui.
C'est la société qui gère le canal du Midi, et des archives départementales. Donc on a quand même des pièces qui sont fabuleuses. Hein.
Mmh.
On peut par exemple découvrir la médaille de fondation de la ville.
Ouais.
Elle date de 1666. Elle est frappée par Louis XIV. Et on a aussi l'édit royal, l'original, hein,
mmh,
qui en 1673, hein, il faut mesurer la distance, hein, décide d'accorder des privilèges à tous ceux qui souhaiteraient s'installer sur les pourtours du port.
Ouais.
Et c'est ça qui va donner des sens à la ville. Alors, c'est Sébastien Tarou qui est le directeur du musée Paul Valéry,
ouais,
qui nous a pris par la main pour nous faire visiter cette exposition. Donc, il y a des visites guidées, évidemment. Ça, on les recommande vraiment beaucoup. Et donc, on va avoir aussi des peintures. On pense notamment aux peintures de Joseph Vernet, qui, mmh, est donc un peintre de l'époque de Louis XIV, hein, et qui, lui, a représenté tous les ports de France. Hein. Voilà. Et avant qu'il ne prenne son pinceau, il n'y avait pas de représentation de la ville. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est les supports qui permettent de voir comment était cette à cette époque-là, oui. Évidemment. Donc, on invite vraiment au-delà des C'est toi qui nous écoutes aussi, puisque Divergence est diffusée sur cette et tout le bassin, et tous les auditeurs, les lecteurs, à aller vraiment découvrir. Vous pouvez prendre date, puisque c'est une exposition qui est installée jusqu'au début de l'année, jusqu'au 7 janvier 2024. Il y a bientôt les vacances de la Toussaint, il va y avoir les vacances de fin d'année.
Et puis les touristes sont partis en plus, donc c'est le moment d'aller à cette. En tout cas, on vous encourage, chers auditeurs, à vous rendre sur cette île singulière et notamment aller voir cette exposition qui, à mon avis, sera passionnante. Tout est dit,
absolument,
chère Françoise.
Oui, il y a encore beaucoup de choses découvrir dans l'hebdo La Marseillaise d'Occitanie, mais on a fait un tour d'horizon qui montre la diversité de notre numéro de cette semaine.
Et donc on vous invite aussi, chers auditeurs, à vous rendre dans tous vos bons kiosques pour découvrir ces titres dont on vient de parler et bien plus encore. Quant à nous, chère Françoise, on se retrouve à partir de la semaine prochaine pour une nouvelle édition de À la Une de La Marseillaise. Bon week-end.
Avec grand plaisir, Bruno.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9, les titres de La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.